Bonjour la Méditerranée, bonjour les Méditerranéens et Méditerranéennes. Vous êtes bien à l'écoute du magazine Kantara, le magazine interméditerranéen. Une petite heure, de nombreuses haltes. Dinar Abdelmegid et son invité, le professeur Essam Abdel Fattah, reviennent sur le transfert depuis la Libye d'un des terroristes égyptiens les plus recherchés. Le reportage espagnol porte sur l'environnement, les énergies renouvelables et les interconnexions électriques. Il est signé Maria Dolores Albiac. La découverte musicale vient de Tunisie de la main de Mayed Asili. Et nous découvrirons aussi, grâce au reportage de Nanette Ziadeh, un artiste. Cette semaine, la revue de presse ne vient pas de Bastia, mais de Madrid, tout comme un regard sur les populations morisques.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Extérieur d'Espagne.
Avant toute chose, un grand salut à nos auditeurs de confession musulmane et tous nos vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr.
بنادم اليوم يزور أهله
بنادم اليوم يزور أهله
الفرح والهنا يكمل له
الفرح والهنا يكمل له
وطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم
سيروا نهار اليوم سحايل
Bonne fête, Saha Idkom.
Regard sur la presse méditerranéenne. La revue de presse.
Le Liban souhaiterait réviser son accord commercial avec l'Union européenne, assure L'Orient le Jour dans un article signé Kenza Ouazani. Beyrouth, semble-t-il, souhaiterait pouvoir suspendre temporairement cet accord pour pouvoir taxer les produits européens. Plusieurs sources locales et extérieures évoquent, je cite, « une suspension unilatérale » et L'Orient le Jour de rappeler que l'accord en vigueur actuellement s'est traduit par la suppression progressive de 2008 à 2015 des droits de douane et autres taxes aux effets similaires sur les exportations européennes à destination du Liban et vice-versa. La mesure aurait la pleine adhésion des industriels et commerçants libanais. Mais le gouvernement libanais refuse, lui, de parler de suspension. Le ministre de l'économie libanais assure que l'intention de Beyrouth est simplement de réviser l'accord d'association. L'article 34 de cet accord le prévoit d'ailleurs. Le commerce est à la une cette semaine, le commerce international, la guerre commerciale sino-américaine et celle qui s'annonce entre les États-Unis et l'Inde. La presse algérienne et la presse égyptienne y consacrent de nombreux articles et ne manquent pas de montrer leurs préoccupations. Hicham Mourad dans El Ahram Hebdo assure pour le moment que les prix de l'or noir se maintiennent en raison de deux séries de développement qui tirent dans deux sens inverses, à savoir une première qui a trait à la tension dans la région du Golfe entre les États-Unis et l'Iran, et la seconde qui a trait à la tension, à la guerre, devrions-nous dire, entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, que la crise entre la Chine et les États-Unis inquiète bien plus. Et c'est sur cette question que les journaux algériens se montrent très, très pessimistes sur les répercussions qui pourraient s'avérer très préjudiciables à l'économie algérienne, etc. Allons au Caire, ou restons au Caire. Le Caire engagé sur tous les fronts, titre Al-Ahram Hebdo, qui souligne que l'Égypte a commémoré en grand la journée de l'Afrique. Pour rappel, l'Égypte assume actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, héritière de feu l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. De ce fait, le président Abdel Fattah Sisi a prononcé un discours télévisé au cours duquel il a insisté sur la priorité à donner au développement du continent ainsi que sur l'importance de l'accord sur la zone de libre-échange continental. Al-Ahram Hebdo rapporte aussi l'octroi par l'ONG COP Guinée du prix leader de l'année 2019 au président égyptien Abdel Fattah Sisi. En fait, depuis 2014, le Caire a amorcé son grand retour sur la scène africaine et s'est lancé depuis dans diverses initiatives, notamment dans le domaine de la santé, comme le dépistage et éradication de l'hépatite C, et également dans celui de la reconstruction post-conflit. Mais où sont donc passés 325 mineurs marocains portés disparus par le Conseil norvégien sur les réfugiés, s'interroge la publication marocaine Yebledi. En tout, le Centre norvégien pour les réfugiés calcule 16 000 disparitions de mineurs étrangers hébergés dans des centres de demandeurs d'asile ces 4 ou 5 dernières années. Selon des ONG norvégiennes, certains de ces mineurs marocains, mais aussi algériens, afghans, syriens, érythréens, etc., seraient partis rejoindre leur famille, soit en France, soit en Allemagne, ou en Belgique, ou ailleurs. Yebledi estime toutefois que tel n'est pas le cas pour tous ces mineurs et que certains pourraient se retrouver dans des situations d'exploitation. Par ailleurs, le journal francophone online Tout sur l'Algérie alerte sur la disparition de plus d'une centaine de mineurs algériens en Norvège. Polémique autour de l'arbitrage vidéo en Afrique comme ailleurs. Le Wydad de Casablanca s'est estimé lésé par la VAR au cours du match retour qu'il a opposé à l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis a remporté le match et remporté de ce fait la Ligue des Champions par un but à zéro. En fait, les Casablancais ont décidé d'abandonner le terrain juste après la décision arbitrale de leur refuser un but d'égalisation. Résultat, 60 minutes de jeu, 90 minutes d'interruption et des craintes pour la Coupe d'Afrique qui se tiendra dans à peine 2 semaines. La CAF peut et doit mieux faire, impérativement. Félicitations aux vainqueurs qui ne sont pas responsables. Aujourd'hui, Aujourd'hui, notre périple commence dans le bassin est de la Méditerranée, entre Égypte et Libye. Le Caire marque un point dans sa lutte contre le terrorisme. Elle vient d'obtenir le transfert de l'un des terroristes les plus recherchés par les autorités égyptiennes depuis la Libye, où il a été capturé l'an dernier par l'armée nationale libyenne. El Hachnaoui, ancien officier de l'armée égyptienne et connu sous le nom d'Abu Omar el-Muhagel, est considéré comme l'un des terroristes les plus dangereux et lié à de nombreux attentats en Égypte. D'ailleurs, il a été condamné par contumace par un tribunal militaire égyptien pour sa participation au massacre du New Valley en 2014, un massacre au cours duquel 22 gardes frontières égyptiens avaient été tués. Quelle est donc l'importance de cette arrestation? Réponse avec l'analyste politique Aïssam Abdel Fattah au micro donc de Dina.
La remise du terroriste à Hachnaoui intervient, on le sait, après une visite éclair en Libye du chef des renseignements généraux égyptien, le général Abbas Kamel. Il a rencontré le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne en Libye, et Hicham El Hachnaoui arrêté en octobre 2018 à Derna en Libye. Et lui, il est condamné à mort en Égypte pour son implication présumée dans plusieurs attentats dans son pays. Il serait notamment lié à la tentative d'assassinat en 2013, autant que je me rappelle, du ministre égyptien de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Ebrahim. Également à l'assassinat en 2017 du procureur général Hicham Barakat. À une autre attaque contre des gardes frontières égyptiens en février 2015, qui a coûté la vie à 29 d'entre eux. Quelle est l'importance en fait ou la signification de cette arrestation? Il faut savoir une chose très importante pour Hicham El Hachnaoui, parce que et lui, il est une source intarissable d'informations, d'où l'importance de l'événement, l'arrestation de Hicham El Hachnaoui. Hicham El Hachnaoui aussi, il a été impliqué dans d'autres attentats, c'est-à-dire qu'à peu près une vingtaine d'attentats, et c'est pour cela qu'il a été condamné à mort. C'est pas seulement l'attentat contre le ministre de l'Intérieur ou bien de tentative d'assassinat du procureur, mais il y en a d'autres bien entendu. Et puis il a fondé une cellule relevant de Daesh en Libye, qui relève aussi ce qu'on appelle les partisans de Bayt el-Maqdis. Lorsqu'on arrête un terroriste, toutes les autres cellules terroristes essayent à liquider ou à neutraliser l'élément terroriste arrêté. Pourquoi? Parce qu'il possède énormément d'informations, donc ce qui constitue un grand danger pour eux. On s'attend en fait à ce que les informations que Hicham El Hachnaoui va donner aux autorités égyptiennes, ces informations pourraient certainement aussi aboutir à l'arrestation d'autres figures, parce qu'on sait très bien que les terroristes sont partout, sont cachés partout, et que grâce à ces informations, on pourrait certainement faire avorter d'autres attentats. Il faut dire quand même que les renseignements secrets égyptiens ont déployé beaucoup d'efforts et que tous les efforts de ces renseignements ont été soldés par un grand succès, par l'arrestation de cette figure très dangereuse qui s'est radicalisée quand il était à l'armée. Et ça, vraiment, c'est une chose quand même curieuse, parce que lui, il s'est radicalisé quand il était à l'armée, parce que lui, il était un officier dans les forces spéciales de l'armée. Il s'est radicalisé, tant que je me rappelle, en 2009. Et puis après, il a été démis de ses fonctions en 2011 ou 2012. Et puis, il a rejoint, bien entendu, les terroristes. Il est parti pour la Syrie, participer à côté des djihadistes à l'encontre du régime de Assad. Il est parti aussi pour la Turquie. Et forcément, il y a d'autres départs qu'il a effectués. Mais on s'attend à ce que les informations qu'il va donner aux autorités égyptiennes révèlent beaucoup de choses à propos de lui.
Une coopération antiterroriste égypto-libyenne qui pourrait bien être suivie d'autres étant donné la forte implication du Caire dans la médiation entre factions libyennes. Pour marquer symboliquement la journée de l'environnement, la RTVE a installé dans les jardins de Prado del Rey, siège de la Casa de la Radio et d'une partie des départements télévision, un hôtel pour insectes. Vous avez bien entendu. Plus qu'une curiosité, un véritable petit refuge pour des espèces dont la disparition menace notre bien-être et notre environnement. Bien sûr, c'est un geste symbolique. Les actions de fond, urgentes, indispensables, sont indiscutablement ailleurs et requièrent des dispositions institutionnelles comme la stratégie énergétique, les interconnexions. L'Espagne est liée à ses voisins par des accords stratégiques en matière de connexion des réseaux électriques avec le Portugal notamment, avec la France un peu moins, mais aussi avec l'Afrique du Nord. Toutefois, des obstacles existent, y compris en Europe et notamment dans les interconnexions électriques d'énergie renouvelable. Maria Dolores Albiach a rencontré Andrés Cadenas, porte-parole des réseaux des compagnies électriques d'Espagne et directeur de construction et investissement.
Le Portugal et l'Espagne sont vraiment interconnectés, mais ce n'est pas le cas entre Espagne et France.
Tout à fait, c'est comme ça. Et les systèmes électriques ibériques sont connectés d'une façon faible avec le reste de l'Europe. Et en fait, les pourcentages d'interconnexion par rapport à la capacité installée n'arrivent qu'à 2,8%, quand dans le reste des pays de l'Europe centrale, ces pourcentages arrivent vers les 10%.
Et quels sont les obstacles pour avoir, pour qu'on n'ait pas beaucoup plus d'interconnexion entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe?
Bon, il y a plusieurs obstacles ou plusieurs enjeux. Les premiers, c'est la volonté politique, la volonté politique de l'Union européenne. Il y a des obstacles pour les interconnexions, mais je préfère parler des deux enjeux. Le premier, c'est l'obstacle politique. S'il n'y a pas de soutien des pays, et notamment de l'Union européenne, c'est difficile à construire ce type d'infrastructures. Et heureusement, l'Union européenne, depuis 2002, a aidé beaucoup aux interconnexions. Et maintenant, c'est possible grâce au projet d'intérêt commun, que c'est une marque que l'Union européenne donne au projet qui aide à l'Union de l'énergie, qui est un bout principal de la Commission européenne pour atteindre l'Union de l'énergie et atteindre les objectifs de décarbonisation et de lutte contre le changement climatique. Et d'autre côté, on a les obstacles ou les enjeux techniques. Les interconnexions, ce sont des projets et d'infrastructures complexes. Et, par exemple, l'interconnexion par les Pyrénées orientales qui a été mise en service en 2015 a un tunnel pour franchir les Pyrénées. C'est un défi grand. Et l'interconnexion qui est maintenant en phase projet, c'est une interconnexion sous-marine qui liera Bilbao et Bordeaux, par exemple.
Entre le golfe que les Espagnols appellent de Biscaye, oui, et que les Français appellent golfe de Gascogne. Ça, c'est sous-marin.
Ça sera une interconnexion sous-marine.
De combien de kilomètres? Ça se finira combien?
C'est une interconnexion en courant continu qui a une longueur de 370 kilomètres et avec des stations de conversion dans le début de
la ligne, oui,
de la ligne, donc et qui aidera à augmenter la capacité d'interconnexion. Il y a des autres obstacles comme sont l'acceptation sociale, et parce que peut-être il y a une idée de que les interconnexions ont un impact environnemental sur le territoire. Et c'est pour ça que la plupart des interconnexions sont ou souterraines ou sous-marines. Mais si on considère que l'impact environnemental, il faut ne pas oublier que les interconnexions sont pour lutter contre les changements climatiques.
Et voyons, il paraît qu'il y a aussi une branche pour une interconnexion avec le Maroc. Ça, c'est intéressant. Et je voulais dire à nos écoutes qu'ils peuvent voir dans la web d'Electricity Interconnection in Southwestern Europe, que c'est une web où on peut voir temps réel les échanges qu'il y a, oui, qu'il y a aussi une interconnexion avec le Maroc. Expliquez.
Oui, c'est un groupe de pays, la France, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, qui forment un système électrique grâce à l'interconnexion entre l'Espagne et le Maroc. L'Espagne et le Maroc, maintenant, il y a des liaisons et un courant alternatif et
sous-marine
aussi par les détroits de Gibraltar. Et récemment, les gouvernements espagnols et marocains ont signé un accord et un mémorandum de compréhension. Un compromis pour développer une troisième interconnexion entre les deux pays.
Et comme ça, on arrivera à pouvoir distribuer même jusqu'à l'Algérie et la Tunisie.
Oui, le Maroc et l'Algérie sont interconnectés, et l'Algérie et la Tunisie aussi.
Alors là, ça fait qu'on commence à voir des interconnexions au-delà de l'Europe.
Et c'est ça. Et c'est bien pour l'intégration des énergies
renouvelables. Et c'est eux qui demandent, le flux sera Espagne vers là-bas ou...
Et
on fera l'autoroute de France jusqu'ici.
Et l'énergie ira où les
besoins.
Où il y aura des besoins. Et il viendra d'où les prix sont les plus bas. Donc, dans un contexte de développement d'énergie renouvelable, par exemple, dans les plans d'intérêt d'énergie et climat du gouvernement espagnol qui a été envoyé à Bruxelles récemment, et on a un objectif de 74% des énergies renouvelables dans le système espagnol en 2030. Donc, à cause de la variabilité des énergies renouvelables, il faut avoir des routes pour les électrons, et on peut avoir des exportations et des importations. Et historiquement, l'Espagne a exporté au Maroc, et bon, de temps en temps, il peut avoir une situation d'importation.
Oui. Je ne sais pas si vous voulez ajouter.
J'aimerais de remarquer sur les bénéfices, sur les avantages de cette interconnexion. La première, c'est un outil clé pour la transition énergétique. Et sans interconnexion, il y aura un gaspillage énorme des énergies renouvelables et il faudra combler sa demande avec des énergies qui viennent des générations avec le CO2, avec les gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est la plus grande quantité d'interconnexions, les plus bas les prix, parce qu'il n'y a plus de concurrence. Et le troisième, c'est qu'il y aura une épargne en construction de nouveaux centrales de génération, parce qu'on peut bénéficier de les installations qui déjà existent.
Et nous passons à présent à une autre découverte musicale. Elle nous vient de Tunisie, une proposition de Maya Dassili. «
اكتشاف موسيقي.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical. Okay, a musical discovery.
La jeune artiste que je vous propose cette semaine s'appelle Farah Fersi. Elle joue du qanoun et elle fait de plus en plus parler d'elle ces derniers mois en Tunisie. Ses interprétations font le tour des réseaux sociaux. Ici, elle reprend deux titres du chanteur tunisien Lotfi Mouchnek. Thank you.
Cántara, nuestro programa intermediterráneo.
Cette seconde partie est très libanaise. Oui, c'est comme cela. Aucunement planifiée, mais il faut dire que nous n'y avons pas remédié non plus. D'ailleurs, que peut-il y avoir à remédier? C'est un plaisir absolu. Nanette Ziadeh, qui connaît le monde artistique libanais comme sa poche, a rencontré pour nous Philippe Raktinji, photographe, réalisateur, producteur.
Philippe Raktinji est né à Beyrouth. Il est réalisateur, documentariste, producteur de cinéma et photographe. Il a fait 3 longs métrages, Bosta, Sous les bombes et Héritage. Son dernier en date est un documentaire et il s'appelle Sur les pas du Christ.
Bonjour Philippe Raktinji.
Oui, salut, bonjour.
Donc avec toi ce matin, on va parler d'un film. Un film qui n'est pas tout à fait dans le panel de ce que tu aurais peut-être fait tout seul. Je ne sais pas, mais
tout
peut-être
à fait,
que si.
Tout à fait.
D'accord, c'est un film qui t'a été commandé par l'association Sur les pas du Christ de Samir Sarkis et également par la fondation maronite La Lentichale, c'est ça?
Exactement.
Voilà, alors c'est un film, comme son titre l'indique, sur les sites religieux du pays. On part en fait sur les pas du Christ, là où il est passé. Et beaucoup d'empreintes sont très très méconnues. Donc c'est un film, certes, qui t'a été commandé, mais qui est d'une grande utilité, non seulement pour les étrangers, mais pour les Libanais qui connaissent très très mal leur pays. Surtout à l'heure où, par exemple, le ministère du tourisme, et ça fait quelques années, essaie de contribuer au développement du tourisme religieux. Je crois que ton film est peut-être encore plus efficace que tout ce qui a été mis en place jusque-là.
C'est un film touristique religieux, mm-hmm. avec évidemment une petite touche raktingienne là-dedans, puisque quand même, je suis cinéaste, parce que quand même, tout cet imaginaire des évangiles m'a été inculqué quand j'étais petit, mm-hmm. et ça a façonné un tout petit peu mon imaginaire. Ça le façonne de façon différente chez les uns, chez les autres. Chez nous, ça nous a façonné l'imaginaire dans une conscience directe ou indirecte du fait que c'est juste à côté, que ça s'est passé à côté, parce que nous, pour nous, ça s'est passé en Palestine. Mais la découverte de ce film que j'ai faite, c'est que ça s'est passé aussi et grandement au Liban. Mm-hmm. Et que, par exemple, le premier miracle, celui de Cana, qui a été commandé par sa mère à Jésus, c'était une chose très intéressante à savoir, et s'est produit à Cana, Liban, selon, évidemment, nous, selon mm-hmm. le film, quoi. Et donc, c'est intéressant.
Mais pas que selon le film.
Mais pas que selon le film. Enfin, si je dis selon le film, c'est-à-dire selon toutes les informations qu'on a récoltées exactement pour pouvoir faire le film et qui nous ont pris 6 mois de travail.
Alors justement, c'était peut-être pas tout à fait ton domaine de prédilection. On a tous grandi avec une certaine éducation religieuse, mais il y a beaucoup de détails qu'on ignore quand on n'est pas très pratiquant, quand on n'est pas tout à fait versé là-dedans. Tu parles de 6 mois de travail, 6 mois de recherche déjà pour les informations en dehors de la préparation du film, j'imagine.
Oui, enfin en parallèle, disons. Effectivement, on a dû ouvrir tous les livres qui ont été écrits sur ce domaine. On a essayé de voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Beaucoup d'héritage oral fait partie du chemin que l'on est en train de prendre, des endroits où il est dit que le Christ aurait passé par là, que Saint Jean serait passé par là, que Marie aurait attendu le Christ pendant qu'il était tout seul ou qu'il était en train de prêcher à Saïda. Donc il y a ça, il est dit dans les évangiles que le Christ est passé par Sour et Saïda et même Sarafand, mais il n'est pas dit où exactement et comment. Donc on a pris à la fois ce qui est dit, ce qui est écrit, ce que les historiens de l'Église ont écrit. Par exemple, beaucoup de choses ont été écrites autour de Cana et on donne, entre guillemets, les preuves de ce que, pour dire que Cana, Liban, c'est le Cana et pas le Cana Palestine, qui s'appelle d'ailleurs pas Cana, mais Kherbet Cana. Mm-hmm. Beaucoup de Cana ne s'appellent pas Cana. Le seul Cana qui s'appelle réellement Cana, c'est au Liban. Et on donne tous les éléments que nous avons. Et on fait ce tour à travers un regard ludique qui est celui des enfants. On prend des enfants, on les met dans un bus, on raconte cette histoire comme si on la racontait à des enfants. Donc c'est un film vraiment grand public, facile, à la fois entertaining parce qu'il y a des blagues à l'intérieur, il y a un peu d'humour, et à la fois où les informations sont cumulées les unes après les autres pour qu'on puisse savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mais c'est un documentaire avant toute chose qui a des petites capsules de fiction où en fait ce sont des acteurs, ce sont les enfants vont rejouer les scènes
telles qu'on les a racontées.
Telles qu'on les a racontées des par exemple du miracle de Cana ou d'autres miracles qui se sont produits à droite à gauche. Parfois c'est les scènes du Christ et ce n'est pas toujours un Christ qui joue, c'est tous les élèves qui jouent au fur et à mesure le Christ. Une manière à nous de dire symboliquement que le Christ est en nous tous. C'est aussi 13 qui sont dans le bus, 12 qui sont dans le bus, 9 élèves et 3 professeurs. Aussi une manière un peu symbolique de raconter un tout petit peu le même voyage du Christ et de ses disciples. Bref, il y a pas mal de petites touches comme ça symboliques. Tout ça pour dire que effectivement les élèves jouent soit le rôle des apôtres, soit le rôle du Christ et de ses apôtres, et ainsi de suite.
Preuve encore une fois que des œuvres de commande peuvent être des œuvres de tout premier plan. C'était ainsi à la Renaissance. Un film à découvrir par les croyants et non-croyants, les chrétiens et non-chrétiens, car c'est aussi une manière de se connaître et de communiquer. Aram Alikian semble être né agrippé à un violon, mais je ne saurais vous confirmer cet extrême nenni. Ce que je peux vous confirmer en revanche, c'est qu'il est né à Beyrouth, dans une famille d'ascendance arménienne. Il est de nationalité libanaise, libano-espagnol, après moult péripéties. Mais Ara est d'abord citoyen du monde et il vient de nouveau de le prouver à travers son nouvel album Royal Garage, un disque où il réunit ses amis et mixe ses goûts musicaux. Nous l'écoutons ici avec l'italien, le sicilien Franco Battiato dans la chanson Voglio Vederti Danzare, un hymne à la joie, à la vie, à l'amour, un pied de nez à la prédestination.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutti intorno alla stanza si danza, danza, e gira tutti intorno alla stanza mentre si danza. E il Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balene estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Tutti intorno alla stanza mentre si danza,
casa padana nelle belle ore estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Ala Malikian, le violoniste qui captive les enfants, qui parle aux enfants de musique, de magie, de rêve, Ara qui invente, qui crée, qui s'amuse comme un enfant et qui n'oublie pas qu'il est enfant de l'exil, un nomade, un gitan. Malikian et José Luis Montón, Toccata y Fuga en Re Menor. Je vous disais que Malikian était aussi réfugié, était un banni en quelque sorte. Eux ont été bannis, ils ont été réfugiés, ils ont été rejetés. Les Morisques, population musulmane convertie au fur et à mesure de la Reconquista, puis chassée. Plus d'un siècle après la chute de Grenade, les explications de l'historien français Philippe de Dieu. Pourquoi cette expulsion de masse? Quel a pu être l'élément déclencheur?
Alors, la question que vous posez est une question qui a été beaucoup débattue par les historiens. Elle n'est pas, la réponse n'est pas évidente. Il semble qu'il y ait un long cumul, disons, de micro-événements qui finissent par faire comprendre aux autorités ou faire croire aux autorités que les Morisques sont inassimilables. Lorsqu'on les a convertis de force au début du XVIe siècle, on pensait qu'en une génération, ils seraient assimilés. Au bout d'une génération, ils ne l'étaient pas. En 1568, en gros, révolte des Morisques de Grenade. Par la suite, campagne de mission à Valence, en Aragon, un peu partout, sans aucun résultat. Et on voit monter, dans les 30 dernières années du XVIe siècle, comment dire, une espèce de... je le dirais en espagnol, disons une espèce de lassitude face à ce problème et la proposition de solutions de plus en plus radicales. L'événement qui a sans doute déclenché l'expulsion à la date où elle a été déclenchée, c'est un, le fait qu'à cette date-là, l'Espagne est en paix depuis très peu de temps, donc on dispose des moyens militaires pour procéder. Deux, que Henri IV, roi de France, était en train de préparer une nouvelle guerre et qu'à tort ou à raison, on était convaincu que les Morisques étaient une cinquième colonne au service de la France.
Alors, les Morisques, cinquième colonne possible au service de la France, mais est-ce qu'ils n'étaient pas aussi perçus comme une cinquième colonne au service, disons, de l'Empire ottoman ou de la Régence d'Alger?
Ils l'ont été. Ils l'ont été, ils ont été perçus comme tels, et nous avons des preuves absolument certaines pour montrer que s'ils ne faisaient pas, disons, une guerre active contre les chrétiens, ils se réjouissaient des victoires turques, s'inquiétaient des victoires chrétiennes, fournissaient aux corsaires musulmans une aide précieuse. Mais dans la seconde moitié du XVIe siècle, disons après les Pentes, l'ennemi prioritaire de l'Espagne cesse d'être l'Empire turc et deviennent les protestants, et notamment la France. Je vous rappelle qu'Henri IV, roi de France, s'est converti deux fois au catholicisme, a renié une fois le catholicisme et il est perçu en Espagne comme un protestant. Et à partir des années 1580, on a quantité d'écrits qui présentent les mourisques comme étant prêts à se soulever à la demande du roi de France, sans compter que beaucoup d'entre eux sont situés en Aragon, région frontière.
Alors, comment s'organise une expulsion aussi massive à cette époque-là? Est-ce que simplement on donne l'ordre, on fait savoir aux mourisques, village par village, qu'ils doivent partir? Ou alors est-ce que on les met dans des charrettes et on leur montre la porte de sortie?
Bon, l'opération qui a concerné plus de 200 000 personnes et qui a été exécutée en 3 ans, donc progressivement, est considéré par l'historiographie comme un chef-d'œuvre de réalisation administrative. On a d'abord rassemblé les moyens de transport, essentiellement des moyens de transport maritimes, puisque la plupart d'entre eux ont été expulsés vers l'Afrique du Nord. Ensuite, on a publié l'édit d'expulsion région par région. On a rassemblé des troupes pour les conduire en convoi dans les ports. Là, on les a embarqués dans les navires qui les attendaient, et après, eh bien, à la grâce de Dieu, ils ne relevaient plus du roi d'Espagne. Un certain nombre d'entre eux, mais minoritaires, sont partis vers la France par voie de terre, souvent des mourisques de Castille, eux pratiquement sans escorte militaire.
Volontairement.
Volontairement, c'est-à-dire ils savaient qu'ils étaient expulsés, ils ne pouvaient pas rester. Des agents sont arrivés pour les prier de partir et ils ont été obligés de quitter leur village en sachant qu'ils avaient tant de temps pour quitter l'Espagne sous peine de graves ennuis.
Alors, d'accord, ceux qui vont vers l'Afrique du Nord sont assimilés.
Assimilés à qui ?
Aux Nord-Africains.
Oula, la chose est un peu plus compliquée que ça, nous en reparlerons.
Voilà, d'accord. Et justement, j'allais en parler parce que je pensais, ou nous sommes nombreux à penser, parce que c'est quand même une histoire qu'on redécouvre maintenant, que les Morisques qui sont partis vers le Nord, très rapidement, se sont assimilés. Ils se sont dissous, disons, dans la masse des Européens. Mais ceux qui sont partis vers le sud, on a bien l'impression que pendant très longtemps, ils ont constitué des espèces de castes dans certaines grandes villes nord-africaines, souvent avec des rapports assez tendus avec la population locale et ensuite avec les Turcs.
Alors, c'est variable. D'abord, il faut savoir que le nombre des morts au cours de l'expulsion a été considérable. Non pas tant au moment de, disons, la reconduite dans les ports en Espagne, qu'après. On a des échos de ce qui s'est passé à bord des navires qui les transportaient. Ça ressemblait assez à ce qui se passe dans les navires qui transportent les immigrants clandestins en Europe aujourd'hui. Par ailleurs, ils ont été accueillis en Afrique du Nord de façon extrêmement variable. D'une part, quand vous avez une masse d'immigrants qui arrivent, même si religieusement, culturellement, idéologiquement, ils sont proches de vous, imaginez des dizaines de milliers de personnes déplacées qui débarquent dans une Algérie ou dans un Maroc, dans les zones du Nord, qui ne sont pas riches, qui n'ont rien qu'il faut faire à manger, et ainsi de suite. 1. 2, ils ont été perçus par les populations nord-africaines comme encore étrangers, parce qu'ils avaient beau, pour beaucoup d'entre eux, continuer à se penser comme musulmans, après des siècles de cohabitation avec les chrétiens, leur islam avait pris une teinte qui n'était plus la même que celle d'Afrique du Nord.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Exterior de España.
Nous voilà arrivés à la fin de ce 35e Cantara de la saison. À Madrid se trouvait à la technique Miguel León. Un grand merci également à tous nos collègues techniciens des radios partenaires. Je vous invite, avant de prendre congé, à aller jeter un coup d'œil, surtout faites-le, à notre page Facebook Cantara. Vous y trouverez d'autres éléments, d'autres informations. À très bientôt.
صدقت في ذا الكلام الحاجب ينقوسي في ترتابي العداو الخال ضرابي عمري في دموع عربي فجي كربي صنعة ربي والجواه لحو شهداء والممنوع قال بطيري على الطيار وراحو دري كان اليوم يوم
La 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 la